Je me demande si le régime burundais, au stade où il en est, qui est celui d'une fuite en avant, n'est pas relativement imperméable à ce type de sanctions. Parce que le pouvoir, il est composé d'un groupe vraiment minoritaire, y compris au sein du parti CNDD, y compris au sein de la population Hutu et tout ça. Et donc, ces sanctions me semblent un peu théoriques et on se demande ce qui pourra les arrêter dans cette fuite en avant.
Oui, et pour vous, quelle sera la solution alors pour arrêter ce bain de sang?
Écoutez, parfois, quand on me dit que l'armée burundaise est divisée, qu'il y a des officiers, y compris Hutu, qui ont fait des formations, etc., il y aura peut-être un sursaut en interne qui pourra arrêter cette dérive. Mais je ne crois pas beaucoup aux sanctions économiques théoriques. Mais cela dit, le régime est exsangue. Et le fait qu'il y ait des sanctions, on ne pourra plus payer les soldes des policiers, les soldes des militaires. Et là aussi, ça va quand même avoir une influence.
Oui, est-ce que vous ne pensez pas que si jamais le Conseil de sécurité adopte donc la résolution qui va sanctionner certains pans du régime Nkurunziza, est-ce que ça ne va pas radicaliser le régime Nkurunziza justement?
Oui, ça peut les radicaliser. Et puis, il y a des choses utopiques, hein, comme venir dire, on va leur bloquer leurs avoirs à l'étranger. Il faudra encore savoir où se trouvent ces avoirs, si c'est dans des pays où ça peut avoir une influence. On va bloquer leur voyage à l'étranger. Où est-ce qu'ils pourraient voyager? Si c'est en Europe, ok, mais ils vont pas aller en Europe. Si c'est en Chine ou dans des pays d'Asie, on ne peut pas l'imposer. Donc, tout ça me paraît un peu théorique.
Oui, lors des débats, beaucoup hein, ont préconisé même l'usage, ou bien la mise en œuvre du chapitre 7 hein, qui recommande l'usage de la force dans certains cas. Est-ce que vous pensez qu'on en est arrivé là, au Burundi? On peut user de la force pour amener le calme dans le pays?
Je sais bien, certains le disent, on dit on ne peut pas arriver à un nouveau Rwanda et tout, mais c'est tout de même très dangereux. Là, il faut mesurer l'état exact de l'opinion dans les campagnes, parce que si ce régime a encore un gros soutien dans les campagnes, dans la population rurale ou tout et tout ça, c'est tout de même assez dangereux. Moi, je pense qu'il faut étrangler progressivement le pays, comme on l'avait fait d'ailleurs à l'époque de Buyoya dans les années 80, le coup d'État de Buyoya, on l'avait étranglé financièrement, et puis finalement, on est quand même arrivé à une solution.
Oui, mais même si on l'étrangle financièrement, hein, le régime Nkurunziza, visiblement, il a d'autres soutiens, non? Soutien financier, je veux dire.
C'est ce que je crois, oui, à d'autres pays que les Occidentaux, au Conseil de sécurité, il y a la Russie, la Chine, il a des alliés. Il faudrait s'interroger aussi sur le rôle de la Tanzanie. Voilà, est-ce que la Tanzanie, si les pays voisins sont tous unis pour exercer des pressions, ça peut marcher. Mais si dans les voisins, il y a des brèches, s'il y a des rivalités d'hégémonie régionale entre le Rwanda et la Tanzanie, par exemple, évidemment, le régime peut jouer là-dessus.
Oui, est-ce que justement le régime ne peut pas jouer de cette division pour se maintenir?
Bien entendu. Bien entendu, parce que la question qu'on se pose pour le moment, c'est, on me dit que les policiers et les militaires viennent de recevoir des armes neuves. D'où viennent ces armes? Qui les a achetées? Avec quel argent? Qui les a fournies? Ça ne peut se comprendre que par un soutien de pays voisins, et donc là, on doit interroger les plus proches, c'est-à-dire, enfin moi je pense surtout à la Tanzanie.
Oui, et les autorités burundaises accusent dans le même temps Kigali de soutenir et d'armer hein, les opposants au régime en place. Est-ce que ce sont des informations crédibles et vérifiables?
Difficile à vérifier, mais les faits sont tout de même présents, c'est que il y a des dizaines de milliers, je crois près de 80 000 réfugiés du Burundi qui se trouve au Rwanda, que toute l'opposition politique burundaise se trouve à Kigali, les journalistes, des hommes politiques. Et donc voilà, ça c'est certain. Maintenant, est-ce que le Rwanda agit activement? On peut se poser la question, hein. Le Rwanda peut aussi agir par personne interposée, il ne manque pas de relais au Burundi. Et le Rwanda est très actif, même si sur le plan de l'expression, c'est le président Kagame qui a parlé, mais sinon, jusqu'à présent, il y avait une très grande discrétion.
Oui, est-ce que Kigali a justement des raisons de se mêler de ce qui se passe au Burundi voisin?
Et pour moi, il y a deux raisons. Il y a la première qui est depuis le début, ils n'en font pas mystère, c'est quand Kigali dit le Burundi a engagé des Interahamwe, donc les auteurs du génocide de 94, a engagé des Interahamwe aux côtés des Imbonerakure, des miliciens du parti au pouvoir. Ça, c'est très dangereux parce que ça représente une menace directe sur le Rwanda. Ça me paraît tout à fait crédible, même légitime. Et deuxièmement, quand Kagame dit, mais il le dit depuis des années, que plus jamais il ne pourra tolérer un autre génocide dans la région, un génocide des Tutsis, ça me paraît légitime aussi. Après ce que le Rwanda a vécu, plus jamais il ne le tolérera. Et donc, si demain, aujourd'hui, le président Kagame est persuadé que les Tutsis du Burundi sont en menacé à un point maximal par les miliciens, qu'on est à la veille d'un autre génocide, je pense que ça, la conscience morale d'un homme comme le président Kagame, en plus de son intérêt politique, va le pousser à faire quelque chose. Ça me paraît évident.
Oui, mais pourtant, Colette Blackman, beaucoup d'analystes pensent qu'on n'en est pas encore arrivé au génocide hein, au Burundi.
Non, c'est prématuré. C'est prématuré. Je crois qu'il est dangereux de comparer le Rwanda de 94 avec le Burundi, parce qu'au Rwanda, à l'époque, moi je me rappelle très bien, la fracture était nette entre les Tutsis qui n'avaient pas d'armes, qui étaient des victimes désignées, les populations Tutsis de l'intérieur étaient des victimes désignées, n'avaient pas de moyens de se défendre, croyaient dans les accords d'Arusha, dans la présence de la MINUR. Et au Burundi, aujourd'hui, c'est tout à fait différent. L'opposition au président, elle n'est pas seulement aux Tutsis, il y a aussi beaucoup de Hutus qui sont hostiles. L'armée est divisée, les partis d'opposition sont divisés. Je crois que c'est toujours très dangereux, du point de vue historique, de faire des décalcomanies d'une situation à l'autre. Ce n'est pas la même chose. On n'en est pas encore là. Il y a encore moyen d'ouvrir un dialogue politique avec toute l'opposition burundaise. Le Burundi a tout de même 10 ans ou même plus d'expérience de négociation. On pourrait l'ouvrir à condition que les durs autour du président Nkurunziza baissent la garde et acceptent de négocier.